19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 19h pétante, votre quotidien sportif Time Sport en ce jeudi soir, et oui, jeudi 8 avril 2021. Au menu de cette émission, la victoire, et oui, des titis parisiens, la bande à Neymar et à Kylian Mbappé ont fait un carton du côté de la vallée bavaroise en terre munichoise. On parlera aussi avec avec la légende Kobe Bryant en la personne de Yann Onona, reporter chez nos confrères de l'équipe, et ce magnifique livre sorti aux éditions Solar. C'est notre invité ce soir. Chelsea qui passe sans bruit, peuvent-ils tout rafler cette année avec Thomas Tuchel? On aura aussi un petit sujet concernant cette fameuse Ligue Europa, faut-il la regarder encore? Et enfin, où ira Galtier, cet entraîneur, eh oui, des Lillois, peut-être du côté de la vallée rhodanienne, en terre lyonnaise, on nous dit. En tout cas, les bookmakers anglais et même français se sont acharnés là-dessus. N'oubliez pas le numéro du sondard, le 01 53 48 3000, pour réagir en direct, mais aussi sur la tutosphère, avec notre CM à son habitude, Farid, qui sera toujours là pour donner toute l'info sportive et aussi commenter l'actué avec vous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec nous, on a la présence d'un certain Viknesh. Comment ça va, Viknesh?
Toujours Bilal, souriant. Après une victoire française en Ligue des Champions, ça fait toujours plaisir, on va dire.
Ah ben aussi, lui, on espère que ça lui a fait plaisir. C'est Mauricio qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Mauricio?
Et ça va impeccable. Merci, Bilal, de me recevoir de nouveau.
Ah ben c'est super, Mauricio, dans la joie et la bonne humeur, avec Toto Bellozzo, juste en face de Mauricio. Comment ça va, Toto?
Salut, Bilal, salut à toute l'équipe. Content de vous retrouver cette semaine.
Ah ben nous aussi. Nous c'est aussi, sympa, Toto. On a Fred. Alors, comment ça va, Fred?
Bonsoir, Bilal. Écoute, ravi, hein, le programme que tu as annoncé est tout simplement magnifique. Et comme l'a dit.
On va voir.
Comme l'a dit Viknesh, belle soirée en Champions League hier. On va en profiter pour s'éclater ce soir.
Eh oui, on s'éclate aussi avec Yanis. On le rappelle, notre réalisateur de cette émission, cette quotidienne qui nous supporte du lundi au vendredi. Mais on n'oublie pas.
Aussi, hein.
Ouais, on le supporte nous aussi. Tu fais bien. Et notamment Boula qui est avec nous. Boula, comment ça va, Boula? Notre patriarche
à
nous.
Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les auditeurs. Ouais, très bien.
Ouais, super.
Alhamdoulilah.
Allez, alhamdoulilah.
Belle victoire, belle victoire de Paris.
On va aborder le cas du Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, ras-le-bol pour certains. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, c'est Yanis qui nous le dit. Et peut-être pour d'autres, c'est un bonheur. Eh oui, Viknesh, bonheur.
C'est un bonheur pour le PSG déjà et pour la France en général. Parce qu'une équipe française qui gagne sur la terre allemande et à Munich, ça faisait 52 ans. Donc c'est pas quelque chose qui est commun en phase éliminatoire, bien sûr. Donc c'est pas la dernière fois que le Bayern avait perdu en Ligue des Champions, c'était contre un certain PSG d'ailleurs, 3-0. Donc avec Emery entraîneur. Et même ce match-là, c'était pas totalement mérité non plus dans le contenu. Et hier, franchement, les joueurs, ils ont fait des sacrifices chacun pour d'autres. Ça se voyait que c'était une vraie équipe, en fait. Il y avait le collectif qui était mis en avant. Chaque fois, on critique le PSG, c'est des individualités, individualités. Là, on a vu une force collective. Ça se voyait qu'ils défendaient ensemble.
Ouais.
Ils étaient tout le temps ensemble, ils se combattaient ensemble. On l'a vu en deuxième mi-temps, je suis désolé, mais on avait une défense, Bakker, Kimpembe, Danilo, Dagba. J'ai rien contre ces joueurs, hein. C'était très bons joueurs. Ils sont à un bon niveau de Ligue 1. En Ligue des Champions contre le Bayern, quand même, on a réussi à tenir. Franchement, c'est top. Avec les blessés qu'il y a eu, Marquinhos qui sort, qui marque le but avant de sortir en mode guerrier.
Le PSG est plus réaliste.
Réaliste et efficace contre un Bayern qui était une machine.
Ouais, donc, une machine. C'est bien. Beaucoup d'occasions ratées, peut-être, Toto Bellozzo.
Un grand Navas aussi.
Ouais, beaucoup d'occasions ratées, ça c'est plus qu'une évidence quand on voit la physionomie du match. Moi, quand j'entends Viknesh dire, ils ont fait preuve de solidarité, je serais tenté de te dire, ils n'avaient pas le choix. Quand
tu vois
le rouleau compresseur que représentait le Bayern hier soir, s'il n'y avait pas au moins, d'un point de vue défensif, énormément de solidarité, je pense que le PSG aurait eu encore beaucoup plus de problèmes. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que malgré cette solidarité qui a été mise en place, c'est que le Bayern a toujours réussi à trouver la faille. C'est pas comme si c'était un Bayern qui cherchait la faille, qui était constamment en train d'essayer de rentrer dans un bloc impénétrable. Non, ils ont toujours réussi à rentrer dans ce bloc défensif qui, tu as raison, Viknesh, ils ont été très solidaires, très combatifs. Mais ils ont dû surtout et avant tout compter sur un très 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 grand Navas et une on va dire un réalisme devant le but des Bavarois qui était inhabituel.
Le manque de Lewandowski, hein.
Ouais, c'est pour ça aussi. Non, mais même si on avait été, tu sais, à une époque où on avait deux ailiers à la Robben, Ribéry, qui étaient là pour planter, c'était des vrais tueurs. Là, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Coman et Sané, sur les côtés, c'est plus des joueurs qui, justement, vont travailler à apporter des ballons pour le buteur qui est Lewandowski. Et là, pour le coup, bah, c'était à eux de faire le travail. Donc, si ça avait été encore une configuration avec des ailiers très, très tueurs dans l'âme, eh ben, on aurait eu peut-être un résultat différent.
Ouais.
Je pense que le résultat, c'est 3-2 pour le PSG.
Farid, t'as bien résumé la victoire de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont incontournables, dont Navas. Je crois que c'est lui qu'il faut cibler. C'est sûr que Kylian Mbappé fait un gros match.
Parisien.
Mais tu regardes le niveau de Navas. C'est un niveau où que il emmène parce que sa présence déjà dans les buts et sa présence, l'aura qu'il a dans cette équipe, il emmène les joueurs vers le haut, tu vois. Et quand on parle de joueurs de champ qui emmène vers les joueurs vers le haut, et là tu sens que t'as un mec de haut niveau qui est là à ces gros moments où il faut faire la différence. Et d'habitude on parle des joueurs offensifs, on parle des défenseurs. C'est sûr que la blessure de Marquinhos, je pense que même Paris, ça leur fait du mal. Parce que quand ils reviennent à 2-2, ils se blessent. Et s'ils se blessent pas, je pense pas qu'ils reviennent à 2-2. Et après, faut pas oublier, tu vois, que le numéro 1, Navas, c'est la clé de Paris. Avec tout le respect que j'ai pour Kylian, parce que Kylian, en ce moment, il carbure. Ouais. Il carbure. Et tu prends un Neymar qui a joué pour les autres.
Ouais.
Et il nous l'a fait à la De Bruyne.
Magnifique passe décisive sur Marquinhos aussi. Ouais, Mauricio.
Et ben, moi, j'ai juste.
Il n'y a pas tort, le boulard.
Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui se dit. Ouais. Mais c'est très drôle parce qu'il y a 5 minutes qu'on a commencé et il n'y a pas un moment où on dit Paris est magique.
Ouais.
Moi, je ne suis pas pro Paris. Je ne suis pas anti Paris. Je ne suis pas pro Marseille. Je ne suis pas anti Marseille. Je suis napolitain.
Ouais.
Donc le reste, je m'en fous. Mais Paris a tapé le Bayern. Paris a tapé le Bayern. Moi, quand je vois tous les frères.
Le champion titre.
On est en France, on s'en fout du Bayern. Non,
mais non,
c'est une belle équipe, ça joue au
ballon.
À un moment, faut être. Moi, je suis pas pro Paris, hein. Franchement, je m'en fous. Mais je suis heureux pour les pro Paris. Il y a encore Yannis qui est heureux. Il y en a beaucoup qui se.
Bien sûr, Vignesh aussi.
Oui, mais avant d'analyser, commençons par nous lever. Commençons par dire bravo, bravo Paris, bravo Paris.
Non, mais sur
j'ai foutu la merde.
Non, il y a un truc.
Arrête,
il y a un truc. Il y a un truc qu'il faut pas oublier. Il y a un truc qu'il faut pas que tu oublies. Moi, je regarde pas Paris sur un match. Moi, je regarde sur une série de matchs. Aujourd'hui, Paris, hier, ils ont fait un gros match. Ils étaient immobilisés parce qu'ils avaient le Bayern en face. Mais quand tu les regardes contre Lille, ils se font taper chez eux. Après, c'est deux écoles. C'est deux écoles différentes. Aujourd'hui, tu prends. Je vois les journalistes de l'équipe qui dit Pochettino. Il protège avant le match. Il protège Neymar. Il manquerait plus qu'il ne protège pas, si tu veux. Il est obligé de le protéger. Il a le Bayern à préparer.
Il ne va pas
l'incendier par rapport au carton rouge qu'il a pris.
Aussi.
Psychologiquement, tu prends un mec comme Pochettino. Mmh. Et c'est pas évident, le club. Tous les mecs qui travaillent dedans, comme Pochettino ou comme Tuchel qui sont venus. C'est dur à gérer Paris. C'est pas.
Alors.
C'est pas.
Non, mais c'était une très, très, très belle soirée pour le football français. C'est une soirée dont on s'en rappellera pendant des années et des années. C'est indéniable. Et même si cette année, le Paris Saint-Germain ne gagne pas le titre, ils font une campagne en Champions League qui est juste sublime. Et l'année dernière, on décrit le Paris Saint-Germain, on disait oui, le parcours n'est pas non plus le plus épique.
Et là, il est assez incroyable. Pour le moment, il est assez incroyable.
C'est impeccable.
Bayern, les plus belles affiches de chaque tour.
Ah, ça fait sourire avec Neige.
C'est le Paris Saint-Germain.
Ouais.
Toute l'Europe, même toute la Terre était derrière ce match. Tout le monde regardait ce match.
Alors justement.
C'est normal qu'en Ligue 1, les joueurs n'ont pas la même intensité. Neymar, en Ligue 1, il se plaint à chaque blessure, à chaque contact. Là, limite, les contacts, il était content de les recevoir. Et pour revenir sur Navas, c'est un goal qui a gagné 3 Ligues des Champions. Enfin, il fait des matchs héroïques, mais il a gagné 3 Ligues des Champions. Et au Real Madrid, comment ils l'ont récompensé?
Ils ont gagné.
Courtois, ils l'ont mis sur le banc. Navas, c'est un gardien qui a de l'ego, c'est un joueur qui a de l'ego. Et sur sa ligne, je suis désolé, mais pour moi, c'est le meilleur gardien de la Terre. Sur sa ligne, c'est le meilleur gardien.
Meilleur gardien du monde, selon Fred.
Zizou, il voulait pas s'en séparer.
Pourquoi il le met titulaire?
Le problème, c'est que Florentino Pérez, il avait promis à Courtois que ça sera lui le titulaire. Et la parole du président, elle a fait office de tout. Il pouvait pas faire autrement, Zizou, par rapport à ça. Et c'est pour ça que il voulait pas se séparer de Navas. Et je pense que le gardien Navas à Paris, je trouve que c'est une des meilleures recrues
parisiennes.
Je juste revenir sur la première émission quand je suis intervenu la première fois il y a 15 jours, 3 semaines. J'ai dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Alors, là, profitons du bal. Peut-être que mardi, vous passez par la fenêtre.
Il prend une valise.
Tirez pas sur l'ambulance.
Oui, Toto, il a pas tort, le Mauricio.
Parce que si tu veux justement avoir cette grille de lecture de attendre la fin du bal pour payer les musiciens, il va falloir non pas faire un exploit, mais en faire deux.
Moi,
j'ai vu deux exploits cette année. Et j'ai vu trois exploits. Alors, en face de Poulon, tout le monde pensait que le Paris Saint-Germain allait être éliminé.
C'est vrai.
On était vraiment
parti. Voilà, c'est pour ça.
Je veux entendre tout ce que vous voulez, sauter au plafond, se faire des bosses sur la tête, parce qu'on est hyper heureux, parce que le Paris Saint-Germain a tapé le Bayern. Ok. Maintenant, il y a aussi une analyse à faire. Moi, j'ai vu un Paris Saint-Germain sous l'eau. J'ai vu un Paris Saint-Germain qui a dû faire appel à son gardien pour sortir de l'impasse parce qu'ils étaient face à un rouleau compresseur qui a manqué énormément d'efficacité. Je dis pas qu'ils ont pas fait un grand match. Évidemment que leur efficacité offensive, elle a été à la hauteur de ce qu'on attend d'une équipe de Champions League. Je reviens pas là-dessus. Je reviens pas sur l'efficacité d'Mbappé. Je reviens pas sur l'efficacité de Navas.
Mais je trouve qu'ils ont volé leur match.
Il faut
quand même admettre.
Ils ont pas volé leur match.
On était à des années-lumière de pouvoir dire qu'on est une équipe qui apporte, par exemple, ne serait-ce que la garantie d'un match retour où on va passer.
Un joueur qui est sous-estimé
de la soirée et l'autre soirée passer assise.
Un joueur qui est sous-estimé. Quand tu regardes un joueur qui est sous-estimé à Paris. Moi, je le trouve extraordinaire. C'est le petit gay. La phrase qui revient, ça, faut que tu saches, dans la gestion, t'as des joueurs de qualité. Et ces joueurs-là, ils ont pas le temps de jeu qu'ils méritent. Parce que quand tu le vois hier contre le Bayern, après, à un moment donné, c'est pas la route de secours du PSG. Normalement, c'est un titulaire indiscutable. Il est plus dans le milieu défensif. Parce qu'on parle de Verratti. Mais tu prends un Pochettino, il sait que Verratti, c'est pas un 6. Il sait que c'est un joueur, c'est un 8 relayeur, il joue plus haut. Et là, quand tu regardes un mec comme Gay, aujourd'hui, pour ratisser tous les ballons, hier, je pense qu'il a fait un gros, gros match. Parce que Gay, moi, je trouve que Gay, aujourd'hui, et Paris, il y a des joueurs qui te surprennent par rapport à leur match. Et
il a fait un très bon match.
Voilà, tu prends, on parle de Navas, mais il y a un joueur qui est exceptionnel, on le sous-estime un peu, on attend beaucoup de lui en beaucoup de lui, mais c'est Kylian Mbappé, c'est ce qu'il fait à son âge.
Oui.
Il est là à l'instant T. Voilà.
Voilà. C'est ça, moi, et sûr. C'est pas les montagnes russes, selon ça.
Ce qui fait plaisir dans le patrimoine football français. C'est bien pour le public du PSG et pour tous les supporters du football français d'avoir un joueur de son niveau à son âge.
Je croyais que t'allais dire, mais ça fait du bien d'avoir un joueur qui vient du 93.
Quand
je te dis ça, c'est parce que je vois ce que tu veux dire, mais bon, c'est vrai qu'il vient du 93.
Bah oui.
Mais c'est quand même, il est international. Et quand je parle de Kylian, c'est ce qui donne, dans ce voilà.
Il a les yeux qui pétillent, Boula, en tout cas, quand il parle du gamin de Bondy. Oui, frère.
T'as raison dans ce que tu dis, Boula.
Alors.
Et franchement, moi, Kylian Mbappé, s'il poursuit encore, ne serait-ce qu'un bon match en Champions League et qu'il fasse un bel Euro, le Ballon d'Or,
il est pas très loin.
Après, il y a du monde devant, mais il peut être dans le top 3. Légitimement être dans le top 3.
Kylian Mbappé
sur la scène européenne.
Encore une fois, d'un point de vue purement statistique, Mbappé, on peut le mettre en lumière. Maintenant, moi, très honnêtement, je suis très 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 loin d'être un anti-Mbappé.
Ouais.
Sauf que j'aime bien appeler les choses par leur nom. C'est un très bon joueur. mais je le mets pas encore dans le gotha des joueurs.
Je mets qui dans le top 5
comme là à l'heure actuelle. À l'heure actuelle,
bah,
actuelle
je mets Benzema, je
ouais, Karim Benzema.
Oui, aussi oui, Benzema. Non,
mais peu importe. Non, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle est la capacité d'un joueur.
Ouais, mais quand tu parles de Farid, quand tu parles de Benzema, ils ont pas le même âge.
Non, mais regarde, mais peu importe. Laisse-moi
dire mais pas importe, ils ont pas le même âge.
Moi je vais regarder, je vais regarder,
Benzema sera pas normalement. Quand
je vais juger, je vais dire
quelle est sa palette de jeu. Sa palette de jeu, est-ce que Mbappé est un joueur fort de la tête? Non. Est-ce qu'il est capable de tirer les coups francs?
Non. Alors, messieurs,
est-ce qu'il est capable d'aller dans les buts?
Non, mais je termine, après j'aurai donné mon avis.
Vas-y, Toto.
Juste, est-ce que dans les petits espaces, est-ce que Kylian Mbappé est un joueur qui a prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'il était capable, contre les blocs bas, de pouvoir exister? Non. Donc ouais. À partir de là, je ne renie pas la capacité de Kylian Mbappé d'être parmi peut-être les deux meilleurs joueurs dans la profondeur, mais d'être un joueur, d'être parmi les trois meilleurs joueurs tout court, je dis non pour l'instant. L'avenir nous le dira et je lui souhaite.
Bah l'avenir, quand tu parles de l'avenir, nous le dira. Mais quand tu vois carburer, aujourd'hui, c'est vrai quand tu parles des espaces. Mais ce qui fait la différence chez l'avancante, parce que c'est un avancante, il peut jouer sur le couloir, mais c'est pas l'avancante, c'est pas le même style de jeu que Benzema. Benzema, c'est des jeux courts. C'est des jeux courts, c'est un peu le jeu espagnol. Par contre,
je le vois pas faire de, enfin, tu vois,
il a une conduite de balle, il a une vitesse, il est à droite devant le but, tu peux pas dire qu'il est pas droit devant le but.
Alors, j'aurais jamais dû rappeler qu'il venait du 93,
c'est la merde. Bien sûr.
Dans ce registre-là.
Oui, Toto.
Il est très fort. Bah, maintenant sorti de ce registre.
Alors.
Voilà. Mais c'est qui la concurrence? Pourquoi tu veux le modifier? Parce qu'il est très fort comme ça. Pourquoi tu veux qu'il change son jeu? Ça, je comprends pas en fait.
Non, être plus complet.
Il faut qu'il s'améliore.
Ouais.
Ça va être le cas. Ça va arriver.
Des meilleurs.
Un peu évolué.
Quand même qu'il puisse avoir une palette de jeu et de style de jeu. Un peu plus
étonné. Oui, ça peut se comprendre aussi. Ouais.
Boula, je sais pas si Fred le disait aussi, ce gamin, en parlant de ce petit Idriss Agueye. Eh ben, Mouane nous dit, il a tout de même 31 ans, le gamin. C'est pas rien.
Oui, mais c'est un gamin pour Boula.
Ouais, c'est un gamin.
Mais après,
Boula.
Gay, il a fait un beau match. Après, pas mal. Il est passé à travers parfois, et là, dans les gros matchs,
quand je te dis le petit Gay, c'est par rapport à ce qu'il subit depuis deux ans qu'il est au PSG. Non, par rapport à ce qu'il subit au PSG. Ça fait quand même de combien de temps? Deux ans qu'il est, ça fait la deuxième année.
Mais après,
quand il dit Gay, que tu veuilles ou tu veux pas, c'est les joueurs qui ont une expérience du football qui font la différence. Quand tu regardes la victoire du Real, quand tu vois Modric, quand tu vois Kroos, tu vois vraiment, c'est des joueurs d'expérience. Ouais. Le football, ça passe que par des joueurs d'expérience avec les jeunes.
L'ancien parisien Christophe Jallet qui disait justement, Gay a été énorme hier soir. Eh ben, vous restez avec nous, nos chers auditeurs, auditrices de Beurre FM. On va revenir avec journaliste, et oui, le reporter plus précisément, Yann Onona, de nos confrères de l'équipe, avec ce magnifique livre, La légende de Kobe Bryant, aux éditions Solar. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Retour sur l'antenne de Beurre FM, et oui, toujours là, en live jusqu'à 20h, accompagné de Mauricio, de Viknesh, Boula, Toto, et aussi notre Fred, qui fait toujours du bon boulot et à l'affût de toute l'information sportive. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01-53-48-3000. Une petite info peut-être avec toi, Mauricio.
Oui, parce qu'on est tout de
suite
parti. Avant
d'accueillir l'invité.
Oui, on est parti à parler du Paris Saint-Germain rapidement. Juste un mot pour dire qu'hier, la Juve a battu Naples en trichant, encore une fois.
Par contre,
quand il parle de la Juve, lui, il faut qu'il sache qu'à l'époque, quand il y a eu les histoires entre la Juve et Naples, c'est-à-dire que tout le business de la Juve, c'est les Napolitains qui le faisaient.
Merci, Mauricio. Arrête Boula.
Parce que
place à l'invité.
Le directeur sportif, Mouji.
Non, il faut qu'il s'était.
Boula, je connais très bien
Boula. Oui, moi aussi. Mais Boula, il connaît pas qui.
J'aimais bien Boula jusqu'à là.
Merci. Place à l'invité.
Time Sport.
Eh oui, on l'accueille, allez, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, Yann Onona, avec ce magnifique livre, La légende de Kobe Bryant, et on le rappelle aussi, reporter chez nos confrères de l'équipe, excusez-moi, Yann, et ce livre aussi aux éditions Solar, un petit clin d'œil à Marie. Bonsoir Yann, comment allez-vous?
Bonsoir, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir.
Ah ben, nous, on est très heureux de vous avoir. Justement, on va aborder cette interview avec vous avec une première question. Il s'en est allé un 26 janvier, 2020. Kobe Bryant, de par sa carrière au niveau mondial et aussi son aura, il manque aujourd'hui au basketball mondial.
Oui, il a laissé un vide immense. Alors ça a été un choc. Hein. Je pense que dans la communauté du basket d'abord.
Et pas que.
Oui, bien sûr, pas que, mais d'abord dans la communauté du basket, vous savez, on compare souvent. Ça, des fois, au 11 septembre, aux événements qui marquent un peu collectivement les gens, qui se souviennent où ils étaient. Bah, la mort de Kobe Bryant, chacun dans le monde du basket se souvient. Et Kobe Bryant, comme vous le disiez, c'était aussi une icône, pas que dans le monde basket, mais aussi culturelle. Il avait gagné un Oscar après sa carrière. Il était connu dans le monde du divertissement. Et donc, ça a touché de par le monde, un peu partout et un peu tout le monde.
Et
justement, vous avez parlé de l'aura de Kobe Bryant. Et comment vous expliquez justement pour qu'il soit ainsi? Parce qu'il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de joueurs qui sont extraordinaires. Et pourquoi lui, il est en dehors de ça, il est au-dessus du basket carrément, je pourrais dire, je pense.
Il y a une très bonne raison, c'est parce que quand il a grandi avec une grande qualité, il imitait les superstars dont il était fan. Et donc quand il était jeune, il a grandi en Italie, il avait un parcours.
Oui, c'est ça, en Italie.
Et en fait, il regardait les vidéos en VHS que lui envoyaient ses grands-parents de Magic Johnson, des stars des Lakers, parce qu'il était fan des Lakers, mais aussi de Michael Jordan. Et il paraît qu'il avait un placard entier consacré aux vidéos de Michael Jordan. Et en Italie,
c'est
ce qu'il faisait déjà quand c'était un gamin, il jouait tout seul, il faisait ce qu'on appelle du shadow basket. Donc il prenait la balle, des fois il avait même pas de ballon, mais il imitait les gestes et les matchs, il rejouait les matchs tout seul. Donc imaginez-le sur un playground en Italie où il y a des cages de foot et des pauvres paniers de basket où personne jouait parce qu'on s'intéressait qu'au football. Et bien lui, il faisait du basket dans le vent. Donc évidemment, c'est un peu particulier. Et dans sa carrière, c'est le joueur qui s'est rapproché le plus de Michael Jordan. D'un point de vue visuel, d'un point de vue des performances. Il faisait la même taille. Vous voyez, donc c'était un peu un clone. Ouais. Et il y a plein de vidéos sur Internet, vous pouvez retrouver où il y a des montages entre les deux joueurs.
Ah ouais, il a été
souvent. Les deux réaliser les mêmes mouvements, les mêmes choses.
Souvent comparé. Oui, Fred.
Salut Yann. Bah d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il me semble que dans ta préface, tu disais que Kobe Bryant était le basketteur qui était le plus proche de Michael Jordan. Donc dans le style de jeu, c'est vrai que ça se ressemblait beaucoup. Humainement, comment était leur rapport? Et derrière ça, j'ai une autre question. On peut imaginer que Kobe est un peu le fils spirituel de Michael Jordan. Toi, tu penses que qui pourrait maintenant prendre la relève?
Alors, c'est une question un peu compliquée. On va commencer par la première.
Alors,
le rapport qu'ils avaient, ils étaient comme grand frère, petit frère. Donc, il faut être clair, Kobe Bryant, moi, je pense, n'était pas au niveau de Michael Jordan.
Ouais.
C'était un. Alors, il l'a imité jusqu'à l'extrême. Il voulait être comme lui parce que lui, il voyait que c'était le vainqueur le plus absolu dans la mentalité, dans tout ça. Donc, dès qu'il est arrivé en NBA, alors que la plupart des joueurs craignaient un peu Michael Jordan, ils n'osaient pas aller le voir, enfin, c'était un vrai tueur, en fait. Bah, lui, dès la fin du premier match, il allait le voir, en fait, il passait une heure dans les couloirs à attendre que les Bulls terminent de se doucher et tout, pour pouvoir gratter 5 minutes avec Jordan et lui parler. Et Jordan racontait ça dans les hommages après le décès de Kobe Bryant. Il disait, c'est comme ce petit frère qui vient vous emmerder, qui vient dans votre chambre, puis dans vos affaires, qui veut vous voler vos trucs et tout. Et il dit, sauf que au bout d'un moment, bah, j'ai compris que c'était vraiment mon petit frère. Oh. Et qu'en fait, on était liés par un espèce d'amour, un truc, une proximité. Il racontait qu'il l'appelait à 3h du matin pour parler du système de jeu en triangle, comprendre un détail technique. Et le gars l'appelait au milieu de la nuit, quoi.
Ouais.
Et finalement, ils ont noué un lien qui était indéfectible. Jordan a adoubé Kobe. Il a compris que c'était celui qui avait le. Il se reconnaissait en lui.
Ouais. Et je voulais. Alors, Boula.
Je voulais te poser une question. C'était un grand sportif. Mm-hmm. Comment ils voyaient Mohamed Ali dans le rapport, comment ils étaient?
Alors là, là pour le coup, j'avoue, alors j'ai pas la réponse spécifique à cette question, mais j'ai peu de doutes parce que c'était un athlète très politisé. Kobe Bryant, ça a été un des, ça c'est une différence avec Michael Jordan par exemple. Jordan le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est très impliqué dans la communauté afro-américaine.
Oui.
Il fait des dons, il s'implique beaucoup et même il fait des déclarations. Mais à l'époque où il jouait, il y a une phrase célèbre de Jordan, c'était il voulait pas commenter des choses politiques et il disait ouais, les républicains achètent des chaussures aussi. Il aurait dit ça un jour, hein, c'est une légende urbaine, parce que ça montre bien l'état d'esprit. Kobe Bryant, c'était pas du tout ça. Donc il était impliqué dès le début dans Black Lives Matter, dans tous ces mouvements.
Bien sûr.
Et dès qu'il y avait quelque chose de politique, il était c'était une figure politique.
En tout cas, Yann, tu m'as répondu, hein.
Ouais,
tu m'as répondu, c'est ce que je voulais entendre.
Ouais,
en tout cas, voilà, c'est moi ce que je voulais savoir, parce que tu sais que des gens comme Mohamed Ali, des mecs comme Mohamed Ali, ou même tu parles de Jordan, qui a plus de recul, parce que c'est des sportifs de haut niveau, et qui s'expriment moins qui veut pas s'exprimer entre la politique et le sport, c'est sûr que c'est pas évident pour eux, parce que comme c'est des figures emblématiques du sport mondial, tu vois, à un moment donné, faut dire que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Et là, tu m'as expliquer que Kobe Bryant, quand je vois un mec qui s'implique au niveau politique par rapport à ce qui se passe dans le pays, moi je trouve ça, humainement, je trouve ça extraordinaire.
Ouais, il le fait. Moi je pense qu'il aurait fini en politique, hein, Kobe Bryant.
Vu comment tu me réponds, à mon avis, je pense qu'il était même bien parti pour finir en politique.
Pourquoi pas.
Il fait partie de quelques personnages dans la NBA, quelques personnalités comme Greg Popovich, le coach des Spurs, Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors, à qui à chaque fois en interview on demande mais vous avez pas envie de vous présenter à l'élection présidentielle, et en fait bon, vous voyez bien qu'un Schwarzenegger a fini
gouverneur de Californie.
Vous voyez, c'est possible.
Donald Reagan,
c'est un ancien joueur des Spurs qui est devenu maire.
On y croit aux États-Unis.
Il y a des passages dans le bouquin par rapport à ce que tu nous dis là, par rapport à tout ce qui est politique, tout ça là.
On l'évoque à la fin, surtout dans l'après-carrière.
Je trouve que si tu t'as pas oublié ces moments-là, je pense que tu as dû faire quelque chose de bien. Parce que vu comment tu réponds, je pense que t'as répondu avec clarté.
Bien sûr,
par rapport à... Parce que c'est pas évident de répondre quand t'es dans les médias, c'est pas évident de répondre avec clarté.
Ouais, c'est gentil. Écoutez, en fait, en tout cas, ce qui est paradoxal avec Kobe, c'est qu'il a commencé sa carrière en étant un peu détesté, contesté. Il était décrit comme égoïste. Et c'est vrai, il l'était. Hein. Vous savez que c'est le joueur qui a manqué le plus de shoots dans l'histoire. Ça veut dire qu'il en prenait vraiment beaucoup. Il en mettait beaucoup aussi.
Mais aussi.
Donc, il est vraiment passé d'une personne un peu isolée qui ne voulait gagner que par lui-même à la fin de sa carrière. Quelqu'un qui faisait l'unanimité.
Ça reste une motivation. Après, t'as ego et ego. À un moment donné, il avait peut-être, placé, par rapport à ses performances, il était obligé d'aller dans l'extrême pour avoir son aura qu'il a dans le sport. Il a été le chercher. Je veux dire, après, il y a de la jalousie chez les gens quand un mec, il a un potentiel où il excelle dans son talent. Il peut pas faire autrement d'avoir ce côté égo pour réussir. Parce que humainement, tu sais, de le sport, c'est pas évident quand même. Tu prends des sacrés coups.
Oui, tous les champions sont contestés de toute façon. Vous voyez bien, LeBron James aujourd'hui, pendant très longtemps, pendant sa carrière, il s'est fait défoncer alors qu'il allait en finale tous les ans en fait.
Alors.
Et on entendait encore lui au quatrième quart-temps, il est pas bon, ou il fait pas ce qu'il faut, ou je sais pas quoi.
Ouais.
Ouais, on se calme.
Et Yann, justement, Yann, on en a avec nous, on en profite. LeBron ou Jordan, pour vous?
Alors là, il y a un gros problème, c'est que je suis né en 1979 et que je suis un enfant des années 90.
Jordan.
Ça n'est pas de la génération.
T'es
peut-être jeune, mais au niveau culture sportif, t'as une expérience de ce qui s'est fait après.
Ça, c'est sûr.
J'ai une petite question.
Oui, petite question avant de terminer avec Yano, Nana.
Bonsoir, bonsoir Yann. J'ai une petite question. Parce que, bon, moi, j'ai connu la NBA à l'époque de la Dream Team. Je suivais beaucoup de Jordan et j'ai arrêté. Je suis l'équivalent du footix dans le basket, moi. J'ai arrêté basket-X. Depuis. Et j'ai comme cette impression que Kobe Bryant a toujours été, voilà, la copie de Jordan, celui qui a toujours été dans ses traces, celui qui a marché dans les mêmes pas que Jordan. Et qu'il a fallu. Pour avoir toute sa reconnaissance, finalement, c'est cet événement tragique qui lui donne toute la mesure du personnage qu'il représentait pour arriver quasiment au même niveau que Jordan. Peut-être une reconnaissance à titre posthume, un petit peu.
Oui, bon, alors moi, de l'intérieur, pour avoir vécu la fin de sa carrière, j'ai pas ce sentiment. C'est sûr que dès que quelqu'un, il lui arrive une tragédie comme ça, on voit souvent ça dans la musique, évidemment, ils ont une aura. On aura, mais moi je n'attribuerais pas ça, pour le grand public peut-être, mais dans le milieu, dans le microcosme du basket, il était déjà reconnu. C'est vraiment venu à la fin de sa carrière, je vous disais, où il a fait l'unanimité, où vraiment il s'est défait de cette image égoïste seul isolé, et il a gagné un peu ses galons. Par contre, après, de là à dire que c'est devenu l'égal de Jordan, bon, moi j'irai pas jusque là.
Bien sûr.
Voilà.
On termine rapidement avec toi, Fred.
Salut Yann. Alors j'ai deux questions une nouvelle fois avant de finir rapidement.
Oui,
alors
ouais.
Déjà pour répondre à la question que je t'avais posée tout à l'heure, qui tu penses dans les basketteurs qui arrivent auraient cette aura, auraient ce talent pour pouvoir faire une carrière identique à celle de Kobe, à celle de LeBron ou de Michael Jordan. Et une autre question, bon tu nous l'as déjà un peu répondu, mais une bonne raison pour que nos téléspectateurs lisent ton
livre.
Nos auditeurs, pardon.
C'est pas grave.
Alors, qui a cette aura aujourd'hui? Alors, ça dépend de quelle génération on parle. Alors, par exemple, bon, moi j'adore Stephen Curry.
Oui.
C'est un choix personnel. C'est, on va dire, dans les 15-20 dernières années, c'est un des rares joueurs qui, en tout cas, moi, devant mon écran, qui passe ma vie à regarder du basket, m'a fait un peu rêver.
Mmh.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais un match, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Il a développé une nouvelle manière de dribbler, une capacité à shooter avec un physique presque anodin, en fait. On a l'impression qu'on pourrait être lui, en fait.
Oui.
Alors, évidemment, on ne peut pas être lui, mais...
c'est vrai qu'il n'est pas très grand.
Bon, voilà, non, mais il est pas exagérément grand, et il n'est pas, pas un monstre, une boule de muscle. Et le gars a écrasé la NBA, mais surtout, il a inventé un truc. Donc, moi, il m'a fait rêver.
Oui.
Sinon, si on parle de...
Zion Williamson, par exemple. Le potentiel. Williamson, justement, son potentiel.
Ouais, alors, franchement, il peut être dans la discussion dans l'avenir, mais attention, il va toujours être entouré de questionnements sur son physique. Donc là, il vient de commencer, il a déjà eu pas mal de blessures, il fait une deuxième saison qui est honnêtement exceptionnelle.
Ouais.
D'ailleurs, elle passe un peu sous les radars. On a l'impression que c'est normal qu'un gamin mette 25 points par match.
Ouais,
non.
C'est vrai.
Donc lui, oui, mais il va falloir observer dans les premières années de sa carrière,
oui,
si son physique tient, parce que ce qu'il fait faire à son corps avec son poids est très compliqué. Donc c'est une vraie question. Après, potentiel est fantastique. Ensuite, joueur ultime pour moi d'aujourd'hui, c'est Kevin Durant. Alors, il a déjà fait plus de la moitié de sa carrière, mais voilà, joueur de 2m10, qui joue comme un arrière, qui sait tout faire, qui défend, qui s'exprime autant dans le basket international, il est champion du monde avec... Team USA champion olympique que dans le basket NBA, pour moi c'est joueur ultime. Voilà, clairement, aujourd'hui, c'est ça, c'est eux qui s'en rapprochent.
Un grand merci. Juste, on n'a plus de temps, Boula. Désolé, Boula.
Comme tu travailles à l'équipe, comme tu es un confrère de l'équipe, je voudrais savoir comment que ça se fait que Marès, il a été noté 4. Et tous les médias français. Merci
Yann Onana. On le rappelle, vraiment très très sympa avec ce magnifique livre. Moment assez cool en la compagnie de Yann, on le rappelle, la légende Kobe Bryant. Préface aussi fait par Tony Parker, la légende aussi. Thomas Bergeon, excusez-nous, aux éditions Solar. Un grand merci. Nous, on prend la direction de Porto.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, il n'était pas à Porto hier, Riyad Mahrez. On va aborder le cas de Porto, 2-0. Une grande option. Ouais, une grande option. Eh oui, Boula, Boula, une grande option, les Blues prennent. C'est bien ça, Viknesh.
Bah, c'est tout à fait ça, parce que 2-0 à l'extérieur. Et surtout que Porto, hier, n'a pas fait un gros match, mine de rien. Ils ont eu deux petites occasions où Mendy a sorti tranquillement. Chelsea a su gérer ses points forts, ses moments forts et ses moments de faiblesse. Ils ont fait une belle différence avec Mason Mount, qui cette année, franchement, il éclot au haut niveau. Ouais. Avec Tourelle, il devient extraordinaire. Au milieu, il peut jouer partout, il est super efficace, il a une conduite de balle incroyable. Ce joueur, il devait avoir la pression depuis tout jeune. On lui dit que ça va être le futur Frank Lampard, etc. Et au final, il a réussi à l'assumer. Il est très bon. Donc là, c'est une pièce maîtresse de Chelsea.
Après, c'est pas le même style de jeu. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais après, son histoire, en fait. Parce qu'il a grandi à Chelsea depuis qu'il a 10 ans ou 9 ans, il est à Chelsea. Donc bon, après, il a été prêté, etc. Et là, il est au haut niveau. Il porte Chelsea pratiquement à lui tout seul.
Ouais.
Par exemple, Werner et Havertz, les Allemands, c'est toujours un peu délicat. Werner qui marque toujours pas en Ligue des Champions, il a été acheté pour ça. Mais Chelsea a fait la différence et logiquement il devrait se qualifier pour le prochain tour. Le match retour, ce sera juste une simple chose à gérer.
En tout cas, leur entraîneur allemand a mis un plan parfait justement hein, hier soir. Oui, Fred.
Non,
c'est vrai. Fait son chemin.
Non, mais c'est vrai que moi, très sincèrement, je demande ce que vous en pensez vous, mais j'ai rarement vu un coach mettre sa patte sur une équipe si vite.
Aussi rapidement, c'est ça.
Et c'est vrai que par exemple, on peut voir que Jorginho, depuis quelques semaines, depuis que Tourelle est arrivé, qui était totalement à la cave sous Lampard, aujourd'hui, pour moi, il est presque indiscutable. C'est vrai que le double pivot Jorginho-Kovacic, qui vraiment gère le rythme de Chelsea, c'est des joueurs qui, sous Tourelle, sous Lampard, on voyait plus déjà Kovacic, mais Jorginho était à la cave. Et après, c'est vrai que, comme tu l'as pas dit, Viknesh, mais c'est vrai que Porto a quand même mal défendu.
Oui, carrément.
Mais je pense pas que leurs chances soient enterrées. C'est une équipe assez solide. Il n'y avait pas leur meilleur joueur.
Jorginho,
Jorginho,
avant d'être à la cave, comme tu dis,
il était à Naples. Ouais. Il a réussi à le placer. Hein,
c'est bien. Il arrive au moins.
T'en pensais quoi à Naples, du coup, de Jorginho?
Ah, super, mais nous, on adore. Ben oui, nous, nos joueurs, on les aime à vie. Donc, quand ils nous trahissent pas.
Parce que
je parlerai pas de Higuain, voilà, pardon, qui est le traditore, mais voilà.
Cogliarella, il est banni à Naples.
Qui?
Cogliarella.
Non, mais non, à chaque fois qu'il marque contre nous, à chaque fois qu'il joue contre nous, il marque, et à chaque fois qu'il marque, il célèbre pas. Parce que c'est un Napolitain.
La mafia sur ses côtes.
Mais non, il y a pas la mafia, elle était hier, elle était en noir et blanc contre nous, aux couleurs de la Juve. C'est eux les mafieux, c'est pas nous.
Mais non, arrête! Bon, ici, on va arrêter.
Après, tu prends Tuchel.
Les Blues, Chelsea.
Tuchel, après, moi, le joueur qui m'impressionne défensivement, c'est Kurzawa, je veux dire.
Ouais.
Et quand tu regardes Thiago Silva, qu'il l'a mis sur le banc hier, je pense que Tuchel, il a compris que défensivement, c'est Thiago Silva, il fait plus partie des 11 du départ.
Quand même.
Non, il y a pas.
Viknesh,
tu prends un mec comme Thiago Silva, il est très médiatisé.
C'est ça.
Surtout, voilà, parce qu'il a fait Milan, il a fait Paris. Grand joueur, je dirais que c'est un bon joueur, mais pas un grand joueur. Parce qu'un grand joueur, Ramos, c'est un grand joueur. Il y a des joueurs qui sont incontournables au niveau d'une carrière.
Ouais.
Je pense que la qualité technique qu'il a, Thiago Silva, il lui manque ce côté défensif, ce côté défenseur, cette âme défensive. Et aujourd'hui, quand tu regardes un mec comme Tuchel, il a compris son équipe, ce qu'il lui fallait pour défendre.
Merci.
Et tu regardes, ils ne prennent pas beaucoup de buts.
Oula, merci à toi pour ces réactions, notamment à nos consultants. Justement, une petite réaction, c'est Fala qui nous dit Napoli sera champion en Serie A et le Paris Saint-Germain champion d'Europe. Ouais. À de suite avec la Ligue Europa.
Time Sport revient dans un instant, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Allez. Messi. Et de retour, et oui, sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission. On va s'attarder sur l'Europa League.
Time Sport. Le duel.
Et justement, il y en a pas mal. Arsenal contre le Slavia de Prague. Un petit clin d'œil à notre consultant Mourad Grenade qui reçoit les Mancuniens, les Diables Rouges, Manchester United, l'Ajax face à la Roma à 21h et aussi le Dynamo face à Villarreal. On doit la regarder ou on doit peut-être l'oublier? Non, il y a des matchs. Des
matchs. Il faut regarder. Bilal, t'as oublié un match là.
Ouais.
T'as oublié Restart Lyon.
Restart Lyon. Coupe de France.
93.
Eh oui.
Le 93.
Je sais pas, il y a combien au score? Boulard représente le 93, c'est ça.
Le Restart. Regardez
comme ça.
Bilal, pour répondre à toi.
Le Restart aussi?
Non. Ça fait un bout de temps d'ailleurs, faut que je retourne à Bauer quand
c'est là, ça
compliqué. Mais pour répondre à ta question, je vois pas pourquoi on arrêterait de regarder une compétition qui jusqu'à aujourd'hui a existé, a toujours tenu en haleine. La seule chose que je changerais, tu sais ce que je ferais
alors
à la place de l'UEFA, c'est que j'inverserais les matchs, c'est-à-dire que je ferais jouer les matchs de Coupe de UEFA avant ce Ligue des Champions, parce qu'il y a
ça serait pas mal. Ouais, ça serait.
Quand t'as vécu les deux journées du, enfin, la journée du mardi de Ligue des Champions, du mercredi de Ligue des Champions, avec toute l'intensité que ça a, tu retombes un petit
peu. Il a pas tort, Mauricio.
Bon, c'est que le jeudi soir, c'est pour la sieste.
Alors que si on jouait les matchs d'Europa League le mardi et les matchs de Champions League le mercredi, jeudi, on aurait une sorte de montée en puissance plutôt que de descendre comme ça de
non, mais le problème surtout, c'est qu'on sait pas où est Grenade.
On va voir Vicnesh aussi.
On sait pas où est Grenade. Non, je déconne, c'est parce qu'ils nous ont sorti les bâtards.
Barrage quand même. Vicnesh. Tu es pas d'accord avec lui. Pas avec Mauricio.
Après, l'Europa League, c'est sympa parce qu'il y a des grosses équipes, United, la Ajax, la Eindhoven. Non, même là, cette année, Villarreal, tout, c'est des bonnes équipes. Mais après, le problème.
Bien sûr.
Après, c'est bien parce que les petites équipes, elles sont performantes. Donc, elles viennent jusqu'en quart de finale. Même plus, on sait jamais.
Les petites équipes.
Hein. Ouais, bah, le Dynamo Zagreb, Slavia Prague.
C'est quelle petite équipe? Voilà. Non, mais Fred, il a raison, là. C'est quelle?
Bah, Slavia Prague ou le Dynamo. Actuellement, par
exemple. Il a raison. Quand il parle de Slavia Prague, il a raison. Quand tu vois qu'ils ont été gagnés là-bas en Écosse, et là, soir contre Arsenal, ça va être chaud. Même pour Arsenal, ça va être chaud parce que ça joue très très bien au ballon. C'est des équipes, t'as l'impression que c'est des petits clubs, c'est des petits pays, mais non, au niveau football, ils sont dans leur sujet.
C'est au niveau du papier. Après, ils sont pas connus pour être une grande équipe. Ils sont pas programmés pour gagner l'Europa League. Alors qu'Arsenal, Villarreal ou même United, ils sont faits pour ça, ils sont programmés pour ça et ils doivent la gagner.
Vicnesh, tu peux pas dire.
Vicnesh, tu peux pas dire. Spécialement pour jouer.
Ce qui fait le charme du sport.
Ils vont être programmés pour jouer la Ligue des Champions. Maintenant, le problème, c'est que cette année, en UEFA, les petites équipes, c'est ce que tu appelles. Les petites équipes jouent 100% la compétition, et bah quand les gros cylindrés sont reversés dedans, il y a comme une espèce de demi-mesure.
Mais ça, hein, oui, mais là on est en quart de finale,
non, mais
ils sont presque en finale, ils peuvent la gagner la coupe. Et après, surtout que ces équipes-là, Arsenal, United, etc., s'ils gagnent l'Europa League, ils sont en Ligue des Champions. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est très important.
Vicnesh, ce qui fait le charme, du sport, quand tu parles des petites équipes, il n'y a pas de petites équipes. Tu prends l'Ajax. Attends, laisse-moi finir de parler.
Alors vas-y.
L'Ajax, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, ils avaient que des gamins entre 18 et 21. On disait ouais c'est un petit club, il y a pas des cracks, mais quand tu, et ce qui fait le charme du sport, ce qui fait le charme du sport et ce qui fait le charme du foot, c'est quand Bilbao ils avaient fait
dans
la grosse
sport,
quand Bilbao ils avaient fait une grosse saison européenne, tu avais une équipe qui joue au football. Alors, avec une culture de foot.
Ouais. On a aussi Mourad et Fala qui nous dit le Slavia a fait un meilleur parcours que Lille, hein, et le Sercipi, ça aussi
pas là.
Oui, Fred. Ouais, quand même, ça faut le rappeler. Oui, Fred.
Vicnesh, je suis étonné parce que tu parlais du Slavia Prague. Le Slavia Prague, je suis désolé, ils sont venus jouer contre Nice, ils ont battu Nice 3-1.
Après, j'ai pas dit que c'est une grande équipe, hein.
Non, mais d'accord, mais c'est le niveau de la Ligue 1 quand même.
Quand tu dis petites équipes, quand tu élimines des équipes et quand tu joues bien au ballon et tu donnes un jeu de qualité, pour moi, c'est pas des petites équipes. C'est qu'en maturité de haut niveau, ils sont à la hauteur des grands.
Ouais. Et pour Fred.
Pour finir, c'est vrai. Bon, alors, on va pas faire tout le débat sur le Slavia Prague.
Non.
C'est quand même, c'est vrai.
Oh, c'est pas mal.
C'est l'équipe qui a moins de visibilité.
C'est ça. Quand c'est ce que je veux dire par là, en fait.
Ils ont battu Nice 3-1. Aussi. Désolé, Vicnesh, je sais que t'es jeune, je suis aussi. Le football de.
Ah, oh, il est le meilleur.
Ça y est, c'est encore moi qui vais prendre.
Non, mais le football d'Europe de l'Est, c'était quand même pendant des années, enfin, la Tchécoslovaquie, toutes
les grandes
nations ont été des grandes nations du football. Après, maintenant, pour revenir sur l'Europa League, tu as dit une chose intéressante. C'est vrai que les grosses équipes la jouent maintenant, car les équipes comme Arsenal ou comme d'autres équipes qui n'ont pas forcément leur ticket en Champions League, c'est une voie d'or pour.
Pour
se qualifier en Champions League. Et je te dis, il y a des belles affiches ce soir. Moi, Ajax Rome, j'attends. Je suis prêt ce soir pour voir ce match.
Et
l'Ajax, comme tu l'as dit. Ils avaient je suis désolé, mais avant leur magnifique épopée européenne, on connaissait pas les De Jong, cette belle épopée. Là, ce soir, moi, je vais parler d'un joueur, Ryan Gravenberch, qui est né en 2002, qui joue à l'Ajax Amsterdam, c'est un joueur que j'aime beaucoup regarder. Et rien que pour ce joueur, l'Europa League vaut le coup.
Et ce qui fait la différence, c'est la grande formation que l'Ajax a depuis des années.
Bah, c'est l'institution, l'Ajax. Ouais. Du coup, ils sortent toujours des joueurs.
Même Villarreal, c'est une très belle équipe.
Bah, oui, le match, il a été très beau.
On verra bien, en tout cas. On reviendra sur ces matchs-là. C'est promis, Vicnesh. Ne t'inquiète pas, avec demain, la dernière émission de la semaine, avec toute l'équipe de Timesport. La dernière rubrique, Boula.
Timesport, le mode pressing.
Il ira où, justement, Monsieur Galtier? Peut-être on aura la réponse avec notre Toto Bellozzo.
Bah écoute, Galtier, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont en mesure de pouvoir lui offrir un challenge plus grand que celui que Lille lui offre actuellement. On sait qu'apparemment Rudy Garcia va certainement partir de Lyon, donc c'est très certainement là-bas que s'il doit atterrir ailleurs en Ligue 1, je le vois mal aller.
Après avoir coaché les Verts, il va aller coacher Lyon.
Ah écoute,
et t'as adjoint de Lyon.
S'il devait le faire, en plus, c'était forcément en passant par une autre équipe. Entre temps, il l'a fait. Maintenant pour.
En tout cas, son rêve, c'est Marseille. Hein.
Oui, mais là, il y a un entraîneur à Marseille. Ouais, là,
pour l'instant, ils viennent de ramener un entraîneur. C'est pour ça que je dis les seuls.
Il sait pas s'il va rester.
Je vois mal aller au Paris Saint-Germain. Ah, je vois mal aller à l'Olympique de Marseille, vu que
à Dijon, on vient de ramener.
Non mais là, on est en train de me pose la question si son avenir s'ouvre ailleurs que Lille. Bah, s'il s'ouvre ailleurs que Lille, hormis Lyon, je vois pas énormément d'équipes qui sont en mesure de prendre un. Parce que lui, pour moi, c'est pas vraiment un entraîneur. C'est
plus un manager.
C'est un manager.
C'est ça.
Ouais. Il a été à l'école Alain Perrin. Et c'est forcément dans une équipe qui va devoir vouloir chercher de l'enjeu. Parce que c'est quelqu'un qui aime faire jouer ses équipes. On le voit à l'heure actuelle à Lille. C'était un entraîneur. Il me semble que statistiquement, c'est un entraîneur qui a toujours fini moyennement entre la 5e et la 8e place, avec depuis qu'il est arrivé à Lille, une 2e et une 4e place. Donc, moi, très honnêtement, si tu me dis si les portes de Lille devaient s'ouvrir sur la France, hormis Lyon, je le vois pas ailleurs.
D'accord, mais.
Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, je le vois pas travailler avec l'étang. Parce que l'étang, où il a été, c'est quelqu'un qui veut travailler et qui va avoir tous les pouvoirs.
C'est un despote.
Voilà. Et le problème qu'il a eu à Rennes, qu'il a eu à Reims ou qu'il a eu à Paris, faut pas oublier ces petits détails-là. Et tu prends lui quand il arrive dans un club, il veut être le patron de tout. Il veut commander même le papier à toilette dans les WC.
C'est pour ça qu'on dit l'étang pour tout.
S'il a envie, hein.
Ouais. Non, là, le débat pour. Pour moi, le débat, il se pose où? C'est soit Christophe Galtier reste à Lille, parce que c'est quand même une très belle équipe qui travaille bien, ou soit il quitte l'Hexagone, c'est tout.
C'est ça, exactement.
Est-ce que maintenant, il est prêt, il est apte à pouvoir franchir un cadre dans un autre pays? C'est ça la question. En Première Ligue, on sait qu'il aimerait bien coacher en Première Ligue, ou en Ligue 1, moi je le verrais bien en
Ligue 1.
Dominique
Sévorac, notre
confrère journaliste, disait que Christophe Galtier ira à Lyon dès cet été avec Neige.
Bah après, Lyon, ça serait bien pour lui, mais après, il faudrait qu'Aulas aussi change d'entraîneur. Chaque fois, il rêve d'un entraîneur étranger, et je pense que même pour Galtier, il a fait le tour en France. Là, il est avec Lille, il peut viser le titre. S'il est champion, on ne sait jamais. Donc, il a tout fait en Ligue 1 avec le titre. Donc, il faut qu'il change d'horizon, qu'il va à l'étranger. Même pour lui, je pense, ça peut être bien.
Il a tout fait en Ligue 1.
Il a 10 ans qu'il est en France.
Saint-Etienne, Lille, ça fait 10 ans qu'il est en France. Donc, faut qu'il change.
C'est bien pour un entraîneur, quand même, d'être. Si tu dis, je passe à autre chose que le championnat de France,
ça serait bien.
Tu as déjà gagné au moins un ou deux titres.
C'est vrai.
Tu as déjà été au moins une fois ou deux champion. Là, en l'occurrence,
il n'est pas tombé sur la meilleure décennie non plus.
Si tu regardes à Saint-Etienne, il a été entre la 8e, entre la 4e et 8e place. C'est ça. Maintenant qu'il est à Lille, il est entre la 4e et la 2e place.
Il faut un titre, en fait.
Ce serait bien qu'il puisse.
Cette année, on sait jamais.
Partir à l'étranger.
Bien sûr.
Faut arrêter toujours dans cette logique de devoir partir à l'étranger pour devenir grand. Moi, je suis pour. Alors, je suis très critique envers notre Ligue 1. Mais en même temps, j'aimerais qu'on ait une grande Ligue 1. Et en ayant une grande Ligue 1, ayant des grands entraîneurs en Ligue 1.
Partir à l'étranger.
S'il veut partir, qu'il parte.
Il revient.
Je pense que même Lyon, ils sont un petit peu déplacés de le solliciter. Le championnat n'est pas terminé. Tout le monde se joue. Tu prends un mec comme Galtier. La qualité qu'il a eue, c'est de travailler avec l'ancien directeur sportif qui est plus à Lille. Parce que le travail qui est fait en ce moment, c'est Campos qui a fait tout le boulot avec eux.
D'un point de vue, peut-être pas d'un point de vue tactique, mais Galtier, c'est un grand pragmatique d'un point de vue effectif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours adapter son style de jeu en fonction de l'effectif qu'il a.
Bah,
il
ne
va pas
s'inventer
une vie à avoir une équipe offensive s'il n'a pas les moyens. Et c'est pour ça que c'est ça que j'aime bien avec lui. C'est qu'il a des bonnes idées, mais il sait garder la tête froide.
Il s'adapte à l'équipe, en fait.
Voilà, il va vraiment
s'adapter à l'équipe. Aussi. C'est vrai qu'à Lille, ce que j'ai bien aimé, mais ce n'est pas que le cas à Lille, c'est vrai que, par exemple, il y avait des moments où, en ce moment, Jonathan David est flamboyant, il a été très mauvais au début de saison. Mais c'est vrai qu'en fait, les joueurs se lèguent. Bamba, 6 premiers mois très bons. Là, il fait plus grand chose.
Ouais. Après, il peut se permettre bon, à Lille aussi.
Sur la scène européenne. Nous, on est très contents. La qualité de Lille, c'est les deux défenseurs centraux.
Ouais. Juste une parenthèse,
on est très contents de Simen.
Ah bah ouais, voilà, c'est ça.
Ah ouais, alors.
Voilà. Quand t'as coaché tous les clubs de Ligue 1, à un moment donné, il faut partir. Ah bah, ça, c'est aussi notre auditeur qui le dit. Un grand merci à Mauricio, à Boula, à Fred aussi d'avoir été avec moi et sans oublier Vic Nesh et Toto Bellozzo. On se retrouve dès demain à partir de 19h. Oui, Fred, rapidement.
Oui. J'aimerais faire un hommage à Moukoum Diakabi qui a été victime d'insultes racistes.
Ça
a
pas
encore été prouvé, mais bon, il y a des présomptions qui l'attestent, qui a été victime de racisme à Sakadis ce week-end et c'était bien d'en parler. Parce que
merci. Merci. La suite des programmes avec Café des Artistes et Mourad. Bye bye et très belle soirée.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.